persona que ya está
dormida.
Porque está abulido desde hace no sé cuánto.
Grand reportage.
Cuando las golpean tanto.
Quand un mari bat sa femme, les coups se voient. Mais quand la violence ne laisse pas de traces, c'est très difficile d'arriver à leur faire prendre conscience de ce qu'elles vivent.
RFI est aujourd'hui au Mexique, à l'écoute de ces femmes victimes de violences dans la rue, dans les transports, au travail, mais aussi peut-être surtout chez elles. La violence conjugale, 43% des Mexicaines en sont victimes. On compte 9 féminicides par jour dans l'indifférence générale. Violence conjugale au Mexique, un drame invisible, un grand reportage d'Alix Hardy.
Le salon est petit mais accueillant. Il donne sur une avenue passante de Mexico. Une dizaine de femmes de tous les âges y sont assises en cercle. Leur point commun, toutes sont victimes de violences conjugales. Elles viennent ici, à la Casa Gaviota, chaque mardi pour échanger. La psychologue Diana Torres mène la discussion.
Prenons l'exemple du dernier témoignage pour essayer d'identifier les différents types de violences. Son mari l'a expulsée de chez elle, a changé la serrure. C'est de la violence patrimoniale. Ensuite, la violence économique. Il lui confisquait son argent. Violence sexuelle, violence physique. Il la battait. Violence psychologique. Il faut apprendre à nommer toutes ces violences.
Véronica vit depuis 17 ans avec un homme violent et manipulateur. Il y a quelques semaines, elle a cherché sur Internet d'où venait son envie d'en finir avec la vie. De fil en aiguille, de page en vidéo, un mot revenait sans cesse. Maltraitance. Elle a tapé « Association, maltraitance, femme » et a contacté la Casa Gaviota.
Et là, on m'explique que tout ça, c'est parce que je vis avec un homme qui me maltraite. Et je comprends. Ah, c'est pour ça que je souffre de dépression depuis si longtemps. Ah, c'est pour ça que dès que j'ai un projet, on me l'enlève des mains. C'est pour ça que je me sens si seule. Quand je me rends compte, c'est comme sortir la tête de l'eau, recommencer à respirer.
Au Mexique, la violence conjugale est l'une des formes de violence de genre les plus répandues. Plus de 4 femmes sur 10 l'ont déjà subie. C'est aussi l'une des plus invisibles, puisqu'elle se déroule dans l'intimité de son chez-soi. En espagnol, Casa Gaviota veut dire « la maison des mouettes ». Comme ces oiseaux migrateurs, qui volent en groupe et s'attendent l'une l'autre, ici, les femmes s'entraident à sortir ensemble de la violence, explique la psychologue.
Elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules, que d'autres femmes sont concernées, qu'elles ne sont pas folles, car beaucoup se disent « c'est moi qui ne tourne pas rond, qui suis têtue, qui n'arrive pas à obéir ». Elles le comprennent quand elles se retrouvent dans le témoignage d'autres femmes. Ici, c'est ça qu'on cherche, à renforcer leur identité. La dignité de ces femmes a été piétinée.
Depuis qu'elle a ouvert les yeux, Véronica veut partir, fuir, se libérer des griffes de son mari.
Je sais qu'il faut que je parte, c'est très clair dans mon esprit, mais il devient tellement violent quand j'ose le contredire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça me fait très peur. Je ne veux pas mourir, alors je vais y aller doucement. En plus, je n'ai nulle part où vivre, encore moins d'épargne, il m'a confisqué mes cartes de crédit. Merci pour cet endroit, je ne sais pas ce que je ferais sans. C'est mon oasis.
Dans ce cercle de paroles, une chose saute aux yeux. La violence conjugale touche toutes les classes sociales.
Mes patientes, eh bien, ça va de la plus démunie, qui me paie avec un café, à l'épouse d'un diplomate qui forcément a bien d'autres moyens. Mais partout, il y a de la violence. Dans les classes sociales élevées, ce qui importe, c'est de maintenir les apparences à tout prix. Elles disent « impossible de dire qu'il me frappe. Comment pourrais-je le dénoncer, vu sa réputation ?» Et dans les classes moins favorisées, c'est la dépendance économique qui les retient. Elles supportent les coûts car il faut à tout prix que le mari leur donne de quoi faire vivre les enfants.
Au Mexique, seule une femme sur 10 ose porter plainte en cas de violence. Ruth a 25 ans, son mari lui confisque son salaire, là-bas, et l'empêche de voir leurs enfants. À bout de force, elle a pris son courage à deux mains pour aller voir les autorités.
Il a fallu que j'y aille 5 fois. D'abord, je suis allée voir l'institution en charge des familles et on m'a traitée de prostituée. Ensuite, je suis revenue avec des preuves et ils ont dit qu'il n'y avait rien de nouveau. À chaque fois, ils secouaient la tête et ils disaient « Désolé, on ne peut rien faire pour vous ». Mais alors, à quoi servent les autorités? La dernière fois, on m'a dit « Vous n'avez qu'à aller chercher vos filles et les enlever. Prenez-les, courez, poussez votre belle-mère s'il le faut à l'étager, elle ne pourra pas vous en empêcher ».
La réponse qu'a reçue la jeune femme n'étonne pas la psychologue. Au Mexique, il est de notoriété publique qu'aller voir les autorités ne garantit pas d'être prise au sérieux.
C'est ce qui s'appelle être totalement sans protection. Et les critiques qu'on entend systématiquement, c'est toujours « Et pourquoi vous ne portez pas plainte ?» Ça vient de gens qui ont une méconnaissance totale de la douleur de ces femmes et de ce qu'elles vivent.
Pourtant, sur le papier, le Mexique a tout ce qu'il faut pour agir. Le pays dispose de lois très bien rédigées sur les violences faites aux femmes. Martha Tegel est députée fédérale du parti Mouvement Citoyen. Elle a participé au vote du texte de loi en 2007.
C'était une initiative très innovante, et pas seulement au Mexique. Le texte reconnaissait le terme féminicide et permettait de recenser les violences faites aux femmes. Il y a eu des fonds attribués pour appliquer la loi. Mais presque 12 ans plus tard, au lieu de baisser, toutes les violences faites aux femmes sont en hausse. C'est le moment de s'arrêter et de se demander, vu la situation critique, ce qui a mal tourné. Où avons-nous échoué ?
Ce qui s'est passé, répond l'avocate féministe Andrea Medina, c'est que cette formidable boîte à outils législative, qui devait permettre de s'attaquer aux violences contre les femmes, est restée au placard.
Au Mexique, malgré toute la pression qu'on peut lui mettre, l'État simule. C'est un terme politique qu'on utilise pour désigner l'incapacité de l'État à remplir ses obligations légales. Le Mexique est devenu expert en l'art de montrer qu'il travaille. Oui, il y a bien des institutions spécialisées, oui, il y a bien un budget alloué. C'est difficile à saisir depuis l'étranger, car les autorités ne mentent pas. Techniquement, elles ont raison quand elles disent qu'elles ont agi, mais il n'y a aucun résultat à montrer.
Cette résistance à s'attaquer au problème est dû à plusieurs facteurs qui se cumulent, explique l'avocate.
Ça dépend du niveau de pouvoir. Certains politiques n'ont aucune volonté d'agir, mais d'autres ne comprennent pas le sujet. Ils ne peuvent pas enquêter car ils n'ont simplement pas été formés. Il y a aussi une énorme incompréhension des termes « égalité » et « discrimination ». Les autorités pensent que si elles admettent qu'il existe des inégalités sur leur territoire, ce sera leur faute.
La psychologue Diana Torres a pu constater elle-même l'indolence des autorités sur le sujet.
L'an dernier, j'ai eu l'opportunité de travailler avec le bureau du procureur. Il cherchait des femmes diplômées en sciences sociales pour mettre sur pied des protocoles d'enquête sur les féminicides. C'est un peu... Allez, hop, n'importe qui, mais venez vite. Et au final, je cite le superviseur, peu importe ce que vous ferez, le résultat des procès, les verdicts ne vont pas changer. Il faut juste qu'on voit qu'on travaille sur le sujet. Et c'est là que j'ai compris que c'était vraiment un dialogue de sourds. J'ai refusé, je suis allée m'occuper de ces femmes qui ont absolument besoin qu'on les écoute. J'essaie de leur montrer que c'est ça notre réalité, que si on reste assise à attendre que justice se fasse, ça n'arrivera jamais.
Cette absence de justice a un nom, l'impunité. Revoici l'avocate Andrea Medina.
Les citoyens ont perdu toute confiance en l'État et l'État est en train de perdre son rôle. Si un homme pense déjà que les femmes ne valent rien et sont jetables, évidemment que cette idée est renforcée s'il insulte, attouche ou tue une femme et que l'État ne dit rien.
Une impunité qui a de graves conséquences. Au Mexique, les ONG recensent 9 féminicides par jour. Les risques se multiplient jusqu'à l'absurde. Dans la rue, les sifflements. Dans le métro, les frotteurs. Dans les taxis, le risque d'être kidnappé. Au travail, le risque d'être harcelé. À la maison, celui d'être battu. Et désormais, au poste de police, la peur d'être violé. Il y a 3 semaines, plusieurs cas de viol présumés par des policiers à Mexico ont été rendus publics. Dans l'un d'entre eux, les policiers identifiés étaient toujours en poste. L'indignation a déclenché une immense manifestation de femmes dans la capitale mexicaine pour exiger que les autorités agissent enfin contre les violences de genre.
Vamos ahora a la Ciudad de México, porque una marcha feminista derivó en actos de vandalismo.
Mais au lendemain de la marche, les médias mexicains se concentraient sur les tags et les vitres cassées. Sans répondre aux revendications des femmes, le président Andrés Manuel López Obrador insistait.
J'appelle les manifestants à éviter la violence, à n'agresser personne et à bien se comporter. Respectons les autres et appliquons le principe de l'amour envers notre prochain.
Face à la menace qui a envahi le moindre recoin de leur vie et à l'indifférence des autorités, les femmes ont décidé de prendre les choses en main.
On
Nous voilà dans une petite salle de sport de la Roma, un quartier branché de Mexico. 8 femmes sont venues assister à leur séance de sport hebdomadaire, mais cette fois, il ne s'agit pas que de se dépenser. C'est un cours d'autodéfense donné par une association nommée Commando Colibri. Le premier exercice consiste à frapper sa partenaire avec ses coudes et ses genoux pour l'empêcher de vous immobiliser. La professeure, Sabina Diaz, est une femme transgenre qui étudie les arts martiaux depuis plus de 10 ans.
D'habitude, ce sont des hommes qui donnent des cours d'autodéfense, mais le problème, c'est que les hommes ne sont pas confrontés à la même violence que les femmes. Notre priorité, ce n'est pas de nous défendre face à un grand méchant caché dans une ruelle sombre, comme on voit à la télé. La majorité des agressions viennent du conjoint, des proches, au boulot, à une soirée. Ça arrive quand on n'est pas sur ses gardes, et prendre des cours d'autodéfense peut aider à savoir réagir.
Elena est venue faire un cours d'essai. Elle a décidé d'apprendre l'autodéfense car elle n'aime pas être vulnérable, dit-elle.
C'est important en tant que femme de pouvoir se sentir en sécurité, forte et capable. Ça ne devrait pas être à nous de garantir ça. C'est le rôle de l'État. Mais on vit dans un contexte très dangereux avec des chiffres de violence et de féminicide alarmants.
Sa camarade Laura prend des cours d'autodéfense depuis un an, depuis qu'elle est venue vivre dans la capitale mexicaine. Pour elle, le changement a été radical.
Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, je vais me faire agresser et violer. J'avais peur dès que je sortais dans la rue. J'ai vécu toute ma vie dans la peur, en fait. Mais après plusieurs mois à m'entraîner ici, une nuit, je traversais un parc pour rentrer et là, j'ai soudain réalisé que je n'avais plus peur. Ça ne m'était jamais arrivé. Bien sûr, j'ai encore peur la plupart du temps, mais maintenant je sais que je peux agir dessus et ça a littéralement changé ma vie.
Prendre des cours d'autodéfense, ça ne se résume pas à savoir donner des coups, insiste la professeure. Le commando Colibri est doté d'une colonne vertébrale féministe et politique.
Les espaces destinés aux femmes sont rares. Ici, les femmes viennent à commando Colibri pour un entraînement physique, mais aussi parce que nous sommes dans un espace de confiance qui est sensible au féminisme. Elles se battent, mais elles prennent aussi soin l'une de l'autre et au final, ça les fait grandir. En plus de l'autodéfense, on travaille beaucoup sur la prévention et les aspects légaux. Qu'est-ce que la légitime défense? Comment réagir face à un policier, un juge? On fait beaucoup plus que se donner des coups de poing.
Luz pratique l'autodéfense depuis bientôt 2 ans. Cela se voit rien qu'à la manière dont elle frappe le punching ball. Le commando Colibri l'a soutenue à plusieurs reprises, en dehors de la salle de sport.
Il y a bientôt 1 an, j'ai dû aller porter plainte à cause d'une situation où je souffrais de violence. Le commando Colibri a été un soutien psychologique. Les filles m'ont accompagnée à chaque étape de ma plainte. Ce genre d'entraide fait aussi partie du féminisme.
Les cours se déroulent dans un quartier bourgeois de la ville. Et c'est bien pratique, car il est plus sûr de s'y rendre le soir. Mais le commando a fait en sorte que les femmes qui en ont le plus besoin ne soient pas exclues.
De nombreuses femmes qui vivent dans d'autres quartiers continuent à venir au cours, mais il y en a beaucoup qui nous disent « Moi, je vis dans un quartier défavorisé et tout l'argent que je gagne part dans le loyer. J'aimerais bien continuer les cours, mais je n'ai pas le budget. » Du coup, en début d'année, on a décidé d'accorder des bourses. Résultat, 10 élèves bénéficient de ce programme.
Certaines de ces boursières viennent d'Ecatepec, une municipalité tentaculaire collée à la capitale où les taux de crime et de pauvreté vertigineux exacerbent tout, surtout la violence contre les femmes, à tel point que la presse mexicaine l'a surnommée « la capitale des féminicides ». Comprendre ce qui se passe ici, c'est comprendre comment la violence contre les femmes s'est généralisée dans le pays. Lucia Camacho fait partie du collectif « Femmes de la périphérie ». À Ecatepec, explique-t-elle, le silence est assourdissant.
Quand on est une femme, habiter en périphérie exacerbe le problème de violence. La périphérie est un ceinturon de pauvreté autour de la capitale où les gens sont laissés à l'abandon. C'est gris, sans éclairage public. Ça reflète bien que les autorités ne prennent pas en considération ces populations. Ici, les femmes sont retranchées chez elles, elles sortent peu et regardent le monde à travers une grille. C'est comme être prisonnière.
L'an dernier, un fait divers épouvantable a traumatisé le pays. Un tueur de femmes en série a été arrêté à Ecatepec après avoir tué et démembré plus d'une dizaine de femmes. L'homme, surnommé le monstre d'Ecatepec, incarnait soudain la racine du mal qui ronge la municipalité. Pour l'avocate Andrea Medina, la fascination pour ce fait divers est une manière d'ignorer la vraie nature du problème.
Pour les médias et les citoyens, c'est plus facile de penser que tout repose sur un tueur en série, qu'il n'y a qu'un monstre, plutôt que de comprendre qu'on vit dans une société discriminatoire qui justifie la violence envers les femmes. Pourquoi voulons-nous à tout prix qu'il soit le seul responsable? Parce que cela nous exempte de comprendre comment, comme membres de cette société, nous faisons partie de cette discrimination. Tant qu'au Mexique, l'impunité régnera, n'importe qui pourra se transformer en monstre, que ce soit en tuant des femmes en série ou en assassinant ta femme.
Manuel Amador est professeur dans un collège-lycée d'Ecatepec. Avec ses élèves, surtout des filles, il a mis sur pied des spectacles où elles recréent ce qu'elles subissent tous les jours. Mais cette fois, ce sont elles qui fixent les règles, explique le professeur Amador en montrant la vidéo d'une représentation.
Aquí hay sufrimiento.
Dans cette vidéo, on comprend la vision des étudiants. Ils se sont habillés pour représenter l'oubli, la violence, la frustration, la haine, le désespoir. Et comment tout ça interagit ensemble? Ça parle d'abus, de coups. C'est ce qu'ils racontent avec leurs propres mots. Je n'invente rien, c'est leur réalité. On la raconte par le biais de l'art, c'est une manière de la dénoncer. Mais à la fin, il y a toujours un message d'espoir. C'est un processus de reconstruction, de guérison.
Pour Belén, qui est en dernière année de lycée, l'atelier a été une révélation.
Pour moi, ça a changé beaucoup de choses. J'ai longtemps fait partie de ceux qui pensaient que s'il arrivait quelque chose à une femme, c'est qu'elle l'avait forcément cherché. Maintenant, je sais que c'est totalement faux, que les femmes devraient avoir le droit d'être libres.
Pour Diana, la psychologue de la Casa Gaviota, l'éducation de ses filles et des femmes qu'elle reçoit chaque mardi leur sauve la vie.
Celles-là, elles ont pris conscience de ce qu'elles vivent. Mais toutes celles dont on n'entend pas parler, eh bien, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Les gens disent qu'elles étaient sûrement au mauvais endroit, avec de mauvaises personnes. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elles sont mortes. Je me dis qu'au moins les femmes qui viennent ici sont encore vivantes. Je peux encore écouter leur histoire.
Las conozco vivas, escucho sus experiencias, sus dolores vivas.
Violence conjugale au Mexique, un drame invisible, un grand reportage d'Alix Hardy, réalisation Pierre Chaffanjon, un magazine à retrouver sur le site de RFI et ses applications mobiles.
Se detiene, se congela la razón.